Europe 1.
Spinoza a révolutionné la philosophie occidentale au XVIIe siècle en repensant la place de Dieu dans l'univers. Il est l'un des précurseurs des matérialistes. Né dans une famille de juifs maranes installés aux Pays-Bas, il partage sa jeunesse entre l'étude des textes sacrés et le commerce familial. Mais à 24 ans, il est excommunié pour ses positions religieuses hétérodoxes. Mis à la marge de sa propre communauté, il devient la proie des fanatiques religieux. Je vous raconte la suite de son histoire en partenariat avec les éditions Hervé Chopin, où vient de paraître le roman de José Rodríguez dos Santos, Spinoza, l'homme qui a tué Dieu. Je suis Virginie Giraud et je vous emmène au cœur de l'histoire, un podcast produit par Europe 1 Studio. Spinoza, l'homme qui a tué Dieu, épisode 2, Deus sive natura, Dieu ou la nature. Nous sommes à Amsterdam à l'automne 1656. Spinoza a été excommunié il y a quelques mois. Il est maintenant un paria pour sa propre communauté de juifs maranes. En osant prendre Dieu comme objet philosophique, en doutant de l'immortalité de l'âme, le jeune homme si prometteur de 24 ans s'est fait des ennemis. Il est devenu la cible secrète des fous de Dieu. Un jour, alors qu'il marche dans la rue, il se fait attaquer par un fanatique qui tente de le tuer en le poignardant. Spinoza parvient à se protéger et l'exalté prend la fuite. Le philosophe n'est pas blessé, mais il regarde avec horreur son manteau largement déchiré par la morsure de la lame. Il gardera toute sa vie ce vêtement pour se rappeler qu'il faut rester prudent face au fanatisme religieux. Chaoté, prudence. À partir de la fin des années 1650, Spinoza gagne sa vie en taillant des lentilles optiques pour les lunettes et les télescopes. Il se fait une petite réputation d'artisan de premier ordre. Parmi ses clients, il y a le physicien et astronome Christian Huygens, qui est un peu le Galilée néerlandais. C'est lui qui a découvert les anneaux de Saturne. On comprend que la clientèle de Spinoza est en partie formée par des amis intellectuels avec qui il échange sur divers sujets. Au début des années 1660, Spinoza déménage plusieurs fois. D'abord à Rheinsberg, puis à Wurberg, près de La Haye. Ça lui permet de rencontrer d'autres intellectuels et de fuir sa condition de paria à Amsterdam. Le philosophe gagne mal sa vie, mais il mène une existence plutôt ascétique. Tout son temps libre est consacré à l'écriture. Il est probablement logé chez l'un de ses amis artistes ou intellectuels. On sait qu'il s'installe un temps chez son maître de latin, Daniel Tiedemann. En 1663, il publie « Les principes de la philosophie de Descartes ». À 30 ans passés, il n'est pas encore reconnu pour sa propre philosophie et cet ouvrage promet de lui donner une belle visibilité. Il lui a suffi d'organiser sous forme de livre les cours qu'il a lui-même donnés à un élève sur le savant français. À ce stade, il est fasciné par la clarté de la pensée de Descartes et par sa méthode, bien sûr. Pour autant, Spinoza ne veut pas être considéré comme un simple philosophe cartésien. Il a une pensée originale et il commence à l'élaborer au fil de plusieurs manuscrits qu'il semble rédiger en parallèle. En 1670, il fait paraître de manière anonyme le traité théologico-politique. Évidemment, ses positions sont assez connues parmi les intellectuels néerlandais pour que l'identité de l'auteur ne reste pas mystérieuse bien longtemps. Dans cet ouvrage, Spinoza réfléchit au lien entre la religion et l'État. Il y refuse l'idée que des hommes d'Église puissent imposer des croyances dogmatiques. Pour lui, seul le savoir, les apprentissages permettent d'échapper aux superstitions et de se libérer. Or, si la religion devient un joug, elle se meut en outil de servitude. Cette pensée peut aujourd'hui nous paraître limpide et évidente, mais au XVIIe siècle, elle est révolutionnaire. Les hommes de Dieu dans toutes les religions sont alors très puissants. Par ailleurs, l'État et la religion s'épaulent souvent pour maintenir leur pouvoir. Inviter le peuple à penser par lui-même et défendre la liberté de philosopher peut donc être perçu comme un acte subversif. Et puis le philosophe va plus loin. Pour lui, les théologiens se trompent lorsqu'ils prônent une croyance aveugle dans les textes. Selon lui, rien dans les récits sacrés n'interdit le recours à la raison, bien au contraire. La raison libère de la peur et de la superstition. Dans la dernière partie de son ouvrage, Spinoza montre qu'on peut être libre de philosopher sans porter préjudice à l'État. Mais la forme d'État qui semble la plus compatible avec la liberté de philosopher, c'est la République. À cause de ses écrits, Spinoza est considéré comme un athée, ce qui est très grave à l'époque. Et d'ailleurs, Spinoza lui-même ne se dit pas ouvertement athée. Toutefois, il remet en cause l'autorité prétendument naturelle de l'État et de la religion, c'est pourquoi son livre sera censuré l'année suivante, mais il continuera à circuler sous le manteau à travers l'Europe. Ce texte est tellement moderne qu'il est encore d'actualité aujourd'hui pour penser nos propres démocraties. Vous l'aurez compris, la philosophie de Spinoza a une immense portée politique et ce n'est pas tout à fait anodin dans les Provinces-Unies du XVIIe siècle. Au temps de Spinoza, les Provinces-Unies, qui vivent leur siècle d'or, sont une république. Au moment où le livre paraît, le grand pensionnaire des Provinces-Unies, l'équivalent d'un chef de gouvernement, est Johan de Witt. Il a favorisé l'essor du commerce maritime et permis à la Hollande de devenir l'une des grandes puissances européennes. Néanmoins, le pays est clivé. Les partisans de la République sont opposés à la vieille aristocratie militaire qui soutient la maison d'Orange-Nassau. Avec le soutien des orangistes, leurs partisans, cette famille aristocratique pourrait rétablir la royauté dans les Provinces-Unies. En 1672, les Provinces-Unies s'enlisent dans la guerre contre le roi de France, Louis XIV. Le peuple considère que Johan de Witt est responsable de leur défaite. Le prince Guillaume d'Orange en profite pour exciter le parti des orangistes. Le 20 août 1672, Johan de Witt et son frère sont attaqués par une foule orangiste en délire. On raconte que leurs cadavres criblés de coups de hallebarde ont été pendus par les pieds, puis coupés en morceaux et exposés en divers endroits de la ville de La Haye. Certaines parties de leur corps auraient même été dévorées. Mais là, il s'agit peut-être d'une légende. Spinoza est horrifié par ces meurtres d'une rare sauvagerie. Il prend alors ouvertement le parti des Républicains, même s'il est capable de critiquer le fonctionnement du gouvernement, et il rédige même une affiche où les habitants de La Haye pourront lire ces mots « Ultimi Barbarorum », qu'on pourrait traduire par « les derniers des barbares » ou « barbares jusqu'au dernier degré ». Mais Spinoza, comme à son habitude, vit alors chez des ennemis et ses hôtes s'inquiètent pour sa sécurité. Ceux-ci le dissuadent de placarder son affiche et l'enferment même dans la maison. Dévasté, Spinoza se serait écrié « Les monstres, les monstres !» Pour autant, le philosophe ne réclame pas vengeance. Pour lui, la haine appelle la haine. Il développera ce thème dans l'éthique. C'est la raison qui doit maîtriser la violence et permettre le triomphe de la vertu. Mais dans la rue, on porte déjà au nu Guillaume d'Orange. Celui-ci a l'intelligence de ne pas renverser les institutions, mais il s'impose à la tête des Provinces-Unies comme Statthouder, c'est-à-dire une sorte de chef militaire. Il se débrouille pour faire nommer ses partisans à tous les postes clés. Sur ces entrefaites, la réputation de Spinoza a passé les frontières. En 1673, Charles-Louis Ier, le grand électeur du Palatinat dans le Saint-Empire romain germanique, lui propose un poste à l'université d'Heidelberg. Il ne pose qu'une seule condition à son embauche. Le philosophe ne devra jamais porter atteinte à la religion. Dans le contexte de son époque, ça veut dire que Spinoza ne pourra pas produire de réflexion sur le divin. Sa liberté de philosopher est donc entravée et il refuse cette offre. Évidemment, c'est pas un caprice. Spinoza a déjà commencé à réfléchir à Dieu dans le livre qu'il est en train de rédiger, l'Éthique, et il n'est pas question de laisser ses concepts sous le boisseau. C'est dans cet ouvrage qu'il écrit sa célèbre maxime « Deus sive natura », Dieu ou la nature. Spinoza décrit Dieu comme une substance présente partout, puis il précise que Dieu est la nature, c'est-à-dire tout ce qui nous entoure et nous-mêmes qui en faisons partie comme un petit fragment. Mais si Dieu est la nature, ça revient à dire de manière très élégante, ou un peu hypocrite, qu'il n'y a pas de Dieu. Et s'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de salut de l'âme dans l'au-delà, pas de transcendance, pas de créateur divin qui récompense les bons et punit les mauvais. Et si Dieu est la nature, nous sommes tous déterminés par ses lois. En comprenant qu'il n'y a pas de libre arbitre au sens religieux, on acquiert une réelle liberté. Spinoza devient ainsi le premier penseur de l'athéisme en philosophie. Une telle pensée pourrait complètement désorganiser les populations du XVIIe siècle pour lesquelles la religion sert d'armature morale plus que la loi. Mais Spinoza compense l'absence de règles de comportement destinées à plaire à Dieu par un sens personnel de la vertu, c'est-à-dire l'éthique. Rien n'est en soi ni bon ni mauvais. L'assouvissement de ses désirs procure de la joie, et la vie en société doit être régentée par les règles fixées par l'État, sinon c'est la loi du plus fort qui s'impose et ce n'est pas souhaitable. L'éthique pousse ainsi à étudier comme un acte libérateur, mais elle explore d'autres thèmes, comme l'amour. Spinoza y distingue les notions d'amour et de possession. Être amoureux, ce n'est pas posséder l'autre, mais éprouver de la joie à l'idée qu'il existe, même si on ne le possède pas. Vivre selon l'éthique permet donc de mener une vie vertueuse qui met chacun sur le chemin de la joie. On pourrait synthétiser ça en une phrase. La sagesse, c'est le bonheur. Vous le devinez, à ce moment-là, Spinoza est en rupture totale avec la pensée judéo-chrétienne qui a tendance à fustiger les plaisirs et à faire l'éloge de la souffrance et de la contrition. Pour autant, peut-on vraiment dire que Spinoza a tué Dieu ? Il en a plutôt fait un concept intellectuel qui n'est pas dénué d'esthétique. Sa pensée très avant-gardiste inspira plus tard Nietzsche et Marx, ainsi que tous les philosophes matérialistes pour qui le bonheur est sur Terre, dans la matière et non pas dans la spiritualité ou dans une après-vie. Dans les dernières années de sa vie, Spinoza continue à raffiner sa pensée en échangeant avec d'autres intellectuels. En 1676, par exemple, il débat de l'éthique avec le jeune scientifique Leibniz. Mais le philosophe s'affaiblit de jour en jour. Il est rongé par une maladie pulmonaire. On pense que la poussière de verre qu'il a respirée quand il polissait des lentilles a induit une pneumopathie. Il meurt le 20 février 1677, à 44 ans. Ses amis s'empressent de réunir ses manuscrits pour les faire imprimer. Spinoza ne voulait pas que ceux-ci soient signés, il considérait que la vérité appartenait à tout le monde. Mais ses amis apposent tout de même ses initiales sur les pages de garde. Ainsi paraissent le traité de la réforme de l'entendement pour la seconde impression, l'éthique, le traité politique et l'abrégé de grammaire hébraïque. Spinoza croyait que l'esprit mourait avec le corps, et pourtant, il a donné une forme d'immortalité à son âme à travers son œuvre. Si Spinoza vous fascine, je vous propose de lire le roman biographique très documenté que José Rodríguez dos Santos lui a consacré. Spinoza, l'homme qui a tué Dieu, est paru aux éditions Hervé Chopin. Au cœur de l'histoire est un podcast produit par Europe 1 Studio. À la production, Caroline Garnier. À la réalisation, Christophe Davio. À la direction artistique et à la composition des musiques originales, Julien Tarot. À la rédaction et la diffusion, Nathan Laporte. À la coordination des partenariats, Marie Corpet. Et moi, la plume et la voix d'Au cœur de l'histoire, je vous retrouve tous les jours sur l'application d'Europe 1 ou sur votre plateforme préférée, et tous les week-ends à 15h sur l'antenne. À très bientôt.